Bonjour, bienvenue dans cette cinquième vidéo consacrée au développement parallèle avec le framework .NET. Alors, dans la précédente vidéo, nous avons vu quels étaient les objets ou les primitives pour protéger une ressource en mémoire. Vient maintenant le moment où il faut coordonner des tâches entre elles ou un groupe de tâches. Alors, nous avons déjà vu qu'il était possible de coordonner des tâches en attendant qu'une tâche ait fini ou en attendant que plusieurs tâches aient fini. On a également vu qu'on avait une notion de continuation. Une tâche ne continuera lorsque une ou plusieurs tâches auront fini. Mais revoyons ça par code. Donc voyons maintenant cette notion de continuation. Donc je vais d'abord créer trois aliens. Un qui sera à droite de l'écran, un autre qui sera au centre de l'écran et un troisième qui sera complètement à gauche de l'écran. Je vais créer une première tâche et je vais déplacer mon alien qui devrait normalement atteindre un certain point et s'arrêter. Je vais démarrer une deuxième tâche lorsque la première tâche sera finie. Je vais lui passer donc l'antécédent qui correspond à la tâche qui a démarré, donc la tâche numéro 1, et je vais déplacer mon alien. Mais attention, je vais passer à cette tâche un paramètre bien particulier qui sera tu ne démarres que si il y a eu une erreur dans la première tâche. Je peux démarrer également une troisième tâche et tester si son comment dire si l'antécédent il y a eu également une erreur, mais cette fois-ci je vais tout simplement tester la valeur ou la propriété isFaulted. Donc je crée un jeton d'arrêt que je passe à ma tâche. Ensuite, je démarre la tâche numéro 1. Je démarre mon programme et voyons ce qui se passe. Je vais démarrer. Donc on voit bien ici mon petit alien qui a démarré. Et si je l'arrête, rappelez-vous, je lève une exception et donc l'alien numéro 2 devrait démarrer. L'alien numéro 2 démarre. De la même manière, si je l'arrête, l'alien numéro 3 démarre également. Donc on voit ici que j'ai bien une notion de continuation et en fonction de l'algorithme, si je suis arrêté, si je suis en exception, je peux démarrer une tâche particulière. Je peux également démarrer une tâche particulière lorsque toutes les tâches sont terminées. Donc on a une notion de continuation multiple en many to one. Donc je vais créer une liste de trois aliens qui, lorsqu'elles vont atteindre un verrou, donc un point à l'écran, elles vont s'arrêter. Ensuite, je crée un quatrième alien qui sera positionné donc au centre de l'écran. Ensuite, je vais créer un tableau de tâches que je vais alimenter avec mes aliens. Je vais démarrer mes tâches, mais je vais les démarrer à une seconde d'intervalle chacune. Ensuite, lorsque toutes les tâches auront terminé, je vais pouvoir démarrer mon quatrième alien. Je démarre. À une seconde d'intervalle, chaque première tâche démarre. Et quand elles arriveront à ce point précis, donc à ce verrou, 1, 2, 3, 4, la quatrième démarre. C'est l'utilisation de la méthode ContinueWhenAll de la classe Factory qui permet d'effectuer cette opération. Je peux également démarrer ma quatrième tâche lorsqu'au moins une des tâches est arrivée à destination. Et cette fois-ci, je vais utiliser la méthode WhenAny. On exécute. Et on voit ce qui se passe. Dès que ma première tâche va arriver, ma tâche numéro 4 ici va démarrer. Alors, une autre méthode consistant à attendre que toutes les tâches aient fini est d'utiliser la méthode WetAll, méthode statique de la classe Task. Je vais recréer donc une tâche numéro 4. Et puis, je vais attendre avec la méthode WetAll, en lui passant un tableau de tâches, que toutes les tâches aient fini leur travail pour pouvoir démarrer la tâche numéro 4. Le seul problème de WetAll ici, c'est qu'il est bloquant. Ça veut dire que je ne peux pas accéder, par exemple, à la pompe à message de la fenêtre. Elle est complètement bloquée. Il va falloir attendre que toutes les tâches aient fini pour pouvoir déplacer la fenêtre. Et bien donc, pour résoudre ce problème, avec la TPL 4.5, on a introduit une nouvelle méthode statique qui est WhenAll, qui elle prend en paramètre toujours un tableau de tâches, mais qui n'est pas bloquante parce qu'elle va être asynchrone. Par contre, ce que je peux faire, c'est attendre et éviter de bloquer cette exécution. Donc ici, je vais bien attendre que toutes mes tâches aient fini avant de démarrer la tâche numéro 4. Par contre, je ne vais absolument pas bloquer le thread initial qui a créé l'application. Si j'exécute maintenant mon code, mes trois tâches démarrent, mais ce que je peux faire, c'est maintenant déplacer la fenêtre ou aller appuyer sur n'importe quel bouton. Ils seront toujours actifs et vous voyez, ma tâche numéro 4 démarre même si je déplace la fenêtre. Vient ensuite le temps où il faut travailler sur des algorithmes qui ont besoin d'un petit peu plus de souplesse quant à leur coordination. Et donc, nous allons utiliser des primitives un petit peu particulières qui vont permettre de coordonner des groupes de tâches entre elles. En règle générale, on peut travailler sur des groupes de tâches qu'on nommerait superviseurs, qui vont superviser un autre groupe de tâches qui serait plus des groupes de tâches dites travailleurs. Alors, ces primitives sont les suivantes. On a la barrière, on a la couldn't event, on a le manuel reset event slim et son pendant Windows qui est plutôt un objet kernel, qui est le manuel reset event. Les deux, la différence avec le manuel reset event et le manuel reset event slim, c'est que le slim va éviter autant que faire se peut de passer en mode kernel pour améliorer justement les performances. On a ensuite un auto reset event qui est un objet kernel. On n'a pas son pendant slim dans le framework.NET ni dans la TPL. Et puis, on a aussi un objet de coordination qui s'appelle les sémaphores slim et son pendant kernel qui est le sémaphore. Alors, toutes ces primitives, on peut dire qu'elles ont deux états. Un état signalé, où on dit que la voie est libre, on peut m'acquérir, et un état dit non signalé, où tous les autres threads ou tous les autres tâches vont attendre que son état passe à signaler, comme on peut le voir dans cette petite animation où ici j'ai trois threads. Une première thread qui va acquérir l'objet puisqu'il est signalé, et donc Windows va le passer dans un état non signalé. Les autres qui vont vouloir l'acquérir vont attendre jusqu'à ce que le premier thread le libère en le passant à un état signalé, et ainsi de suite. Windows garantit d'ailleurs un ordre bien précis. FIFO, first in, first out, premier entrant, premier sorti. Alors, la première primitive que nous allons aborder, c'est la barrière. Cette primitive de barrière est utilisée dans des algorithmes coopératifs, on va dire multiphase, hein, où on va avoir une séparation en différentes étapes, où chaque étape devant attendre que l'une ait fini. C'est utile lorsque, par exemple, des phases ou des étapes doivent attendre en entrée le résultat de la phase précédente. Mais voyons ça par code. Alors, pour illustrer l'utilisation de cette primitive barrière, on va créer quatre aliens qui devront atteindre un verrou disposé à des endroits différents de l'écran. On va symboliser la création de quatre comptes bancaires qui seront alimentés par chaque tâche. On va créer un tableau de tâches et puis on va créer nos comptes bancaires. Chaque compte bancaire sera passé en paramètre à une des tâches. Ensuite, on va utiliser donc l'objet barrière. Cet objet barrière, on va lui dire quatre tâches vont faire partie de l'algorithme et je vais lui passer en paramètre une action sous forme de expression lambda qui sera en charge de faire le total de chaque compte bancaire une fois que toutes les tâches auront fini leur travail. Donc je vais afficher à l'écran le total. Donc ensuite, je vais tout simplement créer mes tâches que je vais donc mettre dans un tableau de tâches. Je passe en paramètre à ma tâche l'itération courante que je réutilise pour récupérer dans ma liste des aliens le bon index pour que l'alien démarre. De la même manière, je vais réutiliser pour récupérer le bon compte. Ensuite, dans une boucle sans fin, je vais de façon aléatoire créer une balance et puis je vais démarrer mon alien. Lorsque l'alien atteindra le verrou, il va tout simplement signaler qu'il a fini la tâche. Par contre, il signale et il attend. Il attend quoi? Il attend que la totalité des tâches qui font partie de la barrière aient atteint en fait le point critique. Et une fois que c'est fait, je finis la tâche. Ensuite, on va tout simplement démarrer ma tâche. Ou mes tâches. J'exécute mon code. Mes quatre aliens démarrent, donc mes quatre tâches démarrent. La première va atteindre le premier verrou. La seconde, elle attend. La troisième, elle attend également. La quatrième a fini. Et on voit apparaître en haut à droite le total le total de la balance qu'ont calculé les quatre. Deuxième primitive, le countdown event, qui est le même principe que la barrière, à la différence près qu'il va séparer le signal et le wait, alors que la barrière, vous l'avez vu, c'est en une seule opération. Mais voyons ça par code. Alors pour illustrer la primitive countdown event, on va utiliser le même principe que pour la barrière. On va créer des aliens, on va créer des comptes bancaires, on va créer un tableau de tâches, on va alimenter et créer nos fameux comptes bancaires en fonction du nombre d'aliens. Cette fois-ci, on va utiliser donc l'objet countDoneEvent et on va lui passer le nombre d'aliens qui fait partie de l'algorithme. Ensuite, on va démarrer nos tâches. Donc, de la même manière qu'on le faisait pour l'objet barrière. Donc, je récupère l'index, je récupère le compte. Dans ma boucle sans fin, de la même manière, je vais de façon aléatoire créer une balance et je vais démarrer mon alien. Une fois que l'alien va atteindre le verrou à l'écran, je vais tout simplement signaler que c'est fini, mais par contre, si je veux attendre, il faut que j'exécute une deuxième méthode qui est la méthode wait. Et je finis ma tâche. Ensuite, je vais tout simplement démarrer mes tâches. Et puis, dans une autre tâche, je vais attendre que tous les aliens aient fini leur tâche, c'est-à-dire que tous les aliens aient signalé que le countdown event soit libre. Et puis c'est à ce moment-là que je vais faire mon calcul de ma balance. voyez qu'il y a la différence fondamentale. Je ne le fais pas directement dans une lambda expression au niveau du barrière, hein, comme je le faisais avec l'objet barrière, mais je le fais dans une autre tâche. Et là, pareil, je vais écrire le montant. J'exécute mon bout de code. Mes quatre tâches démarrent et lorsqu'elles vont chacune à tour de rôle atteindre leur objectif, elles signalent et elles attendent, elles signalent et elles attendent, elles signalent et elles attendent, elles signalent et elles attendent. Une fois que tout ça c'est fini, le wait peut passer et on a en haut à droite le résultat de notre calcul. Alors ensuite, on a le manuel reset event slim qui a une approche un petit peu plus simple que le countdown event parce qu'en effet, lorsque une tâche acquiert le manuel reset event slim, une fois qu'il va signaler qu'il est disponible, il va pouvoir libérer un groupe de tâches qui seraient venues en fait attendre que justement cet event soit signalé. Alors on a également le Auto Reset Event, à la différence du manuel Reset Event Slim, celui-là, chaque tâche qui vont venir attendre sur l'événement vont repartir dans un ordre premier entrée, premier sortie, à chaque fois qu'on va signaler la disponibilité de l'événement. Alors, pour illustrer le manuel Reset Event, on va créer 5 aliens à l'écran. Donc 5 aliens qui devront atteindre un verrou qui est positionné au centre de l'écran. C'est le premier alien qui, lorsqu'il va atteindre le premier verrou, va enclencher le manuel reset event, va signaler le manuel reset event pour que les 4 autres puissent démarrer. Donc on va utiliser le manuel reset event slim. On va créer notre première tâche. Cette première tâche, lorsqu'elle va atteindre son verrou, elle va signaler le fait aux autres tâches qu'elle puisse démarrer. Donc elle signale en utilisant la méthode set du reset event. Ensuite, ben on va tout simplement créer nos 4 autres tâches qui, elles, vont attendre, ici avec la méthode wait, que le premier thread, ou la première tâche, ait signalé l'événement. Et puis, elles vont démarrer. Et une fois qu'elles auront elles-mêmes atteint leur verrou, elles s'arrêteront. Et je démarre donc ma tâche. Je démarre mes tâches. Ensuite, je démarre ma première tâche qui se trouve à la position 0 dans mon tableau de tâches. Donc, si j'exécute mon code, on voit que ma première tâche, elle, démarre. Elle n'a encore pas atteint le verrou. Dès qu'elle atteint le verrou, les 4 autres tâches vont démarrer. Alors pour l'auto-reset event, vous allez voir qu'on va utiliser pratiquement le même code, mais avec des effets légèrement différents. Petit 1, je vais créer mon auto-reset event en lui passant un paramètre false pour lui dire que je mets mon event dans un état non signalé. Ensuite, je vais démarrer mon premier alien, et lorsqu'il va atteindre le verrou, il va signaler qu'on peut démarrer les autres tâches. Mais en fait, à la différence du manuel reset event, ici je vais utiliser un wait one qui peut prendre en paramètre un temps d'attente, mais c'est chaque alien, une fois qu'ils auront atteint leur objectif, qui vont signaler qu'ils ont fini et donc le signaler avec la méthode set. Donc si j'exécute mon code, Le premier alien, lui, a démarré. Les autres, comme c'est dans un état non signalé, bah, ils sont en attente. La première arrive. Il y en a une qui démarre. Donc un alien qui démarre. Dans l'ordre d'arrivée, hein, de planification des tâches, une fois qu'elle aura fini, une autre démarre. Toujours dans un ordre FIFO. Donc là, on voit que la création s'est faite de haut en bas, mais que le démarrage, en fait, est différent. Windows garantit hein, naturellement que le premier arrivé est le premier parti. Et là, logiquement, une fois que celui-là est arrivé, l'autre démarre également. Alors, dernière primitive que l'on va aborder, c'est le sémaphore slim. Le sémaphore slim va coordonner des tâches afin qu'une tâche puisse signaler qu'un certain nombre de groupes de tâches, donc un nombre qu'on peut définir, 2, 3, 6, 12, soit relâché et puissent continuer leur exécution. On utilise très souvent en fait le sémaphore ou le sémaphore slim dans des algorithmes qui protègent des données parce qu'on n'a pas des ressources infinies. Par exemple, un pool de connexion à une base de données où je vais éviter d'avoir trop d'accès concurrentiels et je vais limiter à 10, 20, 30 accès concurrentiel par exemple. Mais voyons plutôt ça par code. Alors, pour illustrer le sémaphore slim, on va utiliser 8 aliens à l'écran. On va avoir un premier alien qui aura une importance importante parce que c'est lui qui va démarrer les autres aliens. Et on va voir comment. On va pour ce faire utiliser un sémaphore slim et on va lui passer en paramètre un certain nombre de valeurs. La valeur initiale c'est tu ne démarres rien tant que je n'ai pas donné l'ordre de démarrer, donc c'est 0. Et un nombre concurrentiel de tâches que je veux sur cet algorithme par exemple est à 7. Ensuite, je vais démarrer ma nouvelle tâche. Donc la tâche numéro 1 qui, elle, aura pour tâche, lorsqu'elle va atteindre son petit verrou, c'est de relâcher deux autres aliens, donc deux autres tâches. Et pour ce faire, le sémaphore slim a une méthode qui s'appelle release, qui peut prendre en paramètre le nombre d'aliens à signaler. Et elle a fini son taf. Ensuite, je vais créer le reste des tâches. Donc de la même manière que les autres primitives. Par contre, ici, je vais donc attendre. Attendre avec la méthode wait du sémaphore slim. J'attends donc que la tâche numéro 1 ait atteint son objectif. Une fois qu'elle a atteint son objectif, la tâche numéro 1, ben je vais pouvoir démarrer. Et de la même manière, chaque alien va lui-même relâcher deux aliens ou deux tâches lorsqu'ils arriveront au verrou. Ensuite, je vais démarrer toutes les tâches. Et puis, je démarre la tâche numéro 1. Alors si on s'arrête un petit peu sur notre algorithme ici, le premier alien va démarrer parce que rien ne l'empêche, et lorsqu'il va atteindre son verrou, il va réaliser donc, il va relâcher deux autres aliens qui sont en attente ici dans cette boucle. Chaque alien qui va démarrer, lorsqu'ils vont eux-mêmes atteindre leur verrou, vont relâcher également deux aliens. Ce qui fait qu'on devrait voir partir deux aliens, puis quatre aliens, puis x aliens si on avait un nombre déterminé d'aliens. Si j'exécute mon programme, ma première tâche, elle, démarre. Et si tout fonctionne correctement, j'ai deux aliens qui devraient partir. En voilà deux qui sont partis. Et puis, lorsque eux-mêmes vont atteindre le verrou, quatre aliens vont partir. On voit qu'il ne reste plus qu'un alien ici, donc forcément, il n'y a qu'un seul alien qui va partir. Alors rappelez-vous, on a vu dans la vidéo précédente concernant les objets de synchronisation qu'il existait des collections concurrentes permettant de créer très rapidement des algorithmes de type producteur-consommateur. On avait utilisé la Blocking Collections. Ben dans la prochaine démonstration, j'aimerais vous montrer comment on peut réutiliser les objets de coordination et les objets de synchronisation pour singer ce type de collection bloquante. Et vous verrez tout compte fait que c'est bien que la Taspa Library nous fournisse justement de base ce type d'objet pour éviter de réinventer la roue. Alors, de façon concrète, à quoi pourraient me servir tous ces objets de synchronisation et de coordination? Donc, on imagine que dans un algorithme de type producteur-consommateur, j'aimerais refaire ma collection bloquante. Donc, on va créer une classe qu'on va appeler Blocking Bounding Queue, qui est une classe générique. En interne et de façon privée, on va utiliser la file d'attente, celle qui n'est absolument pas multithreadée. Du coup, il va falloir la protéger, avec une exclusion forte. Donc, on va utiliser un mutex. Ensuite, on va utiliser des sémaphores à la fois pour les producteurs et des sémaphores à la fois pour les consommateurs. Dans le constructeur, on va lui passer une capacité au niveau du producteur. Ça veut dire que je vais avoir X producteurs qui vont être capables de produire en fait des données. Et puis au niveau du consommateur, de la même manière, je vais pouvoir lui dire voilà le type de capacité que je veux. Je vais mettre une variable qui sera une propriété completed alfalse. Je suis en train tout simplement ici de singer ce qui existe déjà dans le framework .NET, c'est-à-dire la Blocking Collections, mais c'est pour vous montrer à tel point il ne faut pas réinventer la roue. Donc du coup, j'ai une méthode complete adding. Pareil, je vais mettre à trou et derrière, je vais réutiliser la sémaphore du consommateur. Ensuite, j'ai ma méthode, qui est une propriété d'ailleurs isComplete. J'ai une méthode add, donc où il va falloir que je m'assure que le buffer n'est pas déjà plein. Nous devons donc bloquer jusqu'à ce qu'un consommateur en fait ait pris un élément. Donc dans ces cas-là, je vais attendre. Donc j'attends qu'un consommateur ait pris un élément dans la file d'attente. Maintenant, on entre dans une région critique parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de conflit. Donc je vais utiliser la méthode wetwine de mon mutex. Et puis, je vais ajouter à ma file d'attente interne l'élément qui m'est passé en paramètre dans la méthode add. Et finalement, je vais réaliser le mutex. Normal, il faut que je laisse la main à une autre tâche ou un autre thread. Et puis, je notifie en fait qu'un élément est disponible au consommateur qui peut se réveiller. Donc lui, il est en attente. Et donc, en lui notifiant, je réalise le sémaphore. Ensuite, je vais implémenter certaines méthodes. Donc, par exemple, la méthode tech qui va bloquer tant que la file est vide. Hein. Et puis je vais dépiler un élément à l'intérieur de notre section critique. Donc naturellement, il faut que je sois coordonné. Donc je dépile. Si j'ai une erreur, je vais relancer. Ah, c'est important. Ouh là là. Alors en gros, je suis tout simplement en train de dire, si jamais il n'y a plus d'éléments dans la file d'attente, je lève l'exception. Hein. Ouh là là, mon petit gars, la file d'attente est vide. Finalement, je réalise également le mutex et je vais réaliser aussi mon sémaphore pour laisser la main à d'autres producteurs. Ensuite, je fais une autre méthode qui est le try-tech. Donc, je singe hein, la blocking collection, comme on l'a pu l'avoir dans une autre vidéo. Je ne vais pas essayer de la bloquer si les producteurs ont fini leur job. Hein, donc, voilà, je mets un petit commentaire. Donc, du coup, je vais ici dépiler un élément à l'intérieur de notre section critique. Donc, ça ressemble beaucoup. Je déqueue. J'ai une variable try it qui me permet tout simplement, alors c'est la façon la plus simple dont j'ai trouvé hein, pour dire si c'est bon, c'est que ça a marché. Si ça n'a pas marché, je vais retourner tout simplement. Je réalise le mutex. Je retourne tout simplement quelque chose de vide. Donc là, j'ai mon élément. Donc j'ai ma blocking collections. Maintenant revenons à mon code ici, qui utilisait la blocking collections du framework.NET. Donc on va faire un copier-coller. On va utiliser la blocking bounding queue. J'exécute. Et si on regarde un peu mon code, ben on s'aperçoit que j'ai peu ou prou le même fonctionnement que j'avais avec la version TPL, si ce n'est que là, j'ai des threads qui partent ou des tâches qui partent de façon particulière. Et de façon différente, parce que leur implémentation doit être quand même meilleure que la mienne. Encore une fois, il faut toujours, toujours, toujours éviter de réinventer la roue si quelque chose existe, en fait, et si l'élément existe dans la TPL. Dans notre prochaine vidéo, nous aborderons la notion de parallélisation de boucle et les paramètres qu'on peut passer aux méthodes parallèle.for et parallèle for each pour optimiser les algorithmes si besoin est.